Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel entretien de la librairie Mola. Nous sommes aujourd'hui avec Galia Ackermann. Bonjour.
Bonjour.
Alors Galia Ackermann, quelques mots pour vous présenter, même si on vous connaît déjà. Vous êtes née à Moscou et c'est important pour tout ce qui va suivre. Vous êtes historienne, essayiste, journaliste, spécialiste de la Russie et de l'ex-URSS. Vous êtes aussi docteur en histoire, bien entendu. Vous avez signé plusieurs livres sur le sujet. Vous avez signé « Le régiment immortel »,« La guerre sacrée de Poutine » ou encore « Traverser Tchernobyl ». Et je m'arrête sur ce dernier titre parce que c'est le sujet de votre nouveau livre, mais sous un tout autre angle. Vous signez aux éditions du Premier Parallèle « Le KGB à Tchernobyl ». Alors Galia Ackermann, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire le pitch de ce livre, une présentation, et planter en tout cas le décor, parce que dans ce livre, vous nous racontez la construction édifiante de la centrale nucléaire de Tchernobyl qui a commencé en 1971 et qui a explosé en 1986, comme chacun sait. Et vous nous le faites, on va donc de la construction jusqu'à l'explosion, et vous nous le faites à l'appui des rapports du KGB ukrainien, c'est important, on va en parler également. Et en vous lisant, Galia Ackermann, quand on lit ce livre, on a l'impression que c'est l'histoire d'un fiasco monumental, d'un monument d'erreurs de bout en bout et d'erreurs stratégiques. C'est un monument d'incompétence que vous décrivez à la faveur donc de ces archives du KGB. Je le rappelle, la centrale de Tchernobyl, pour que chacun ait le décor, est construite en Ukraine, à une centaine de kilomètres de Kiev. La construction a commencé en 1971, je le disais, et elle a explosé 15 ans plus tard dans ce qui est et ce qui reste encore la catastrophe nucléaire majeure de notre histoire contemporaine. Galia Ackermann, quand on lit ce livre, il y a une personne, en tout cas, il y a un corps qui sort complètement éreinté au-delà des victimes, c'est celui du KGB. Je ne sais pas si vous avez vu des retours des maîtres espions actuels du KGB, mais ce livre, en tout cas, s'il n'était pas tragique, offre quelques moments assez risibles, en tout cas, c'est assez édifiant. Et je pense que le KGB en sort complètement éreinté à la lecture de votre livre. Et je veux qu'on commence d'ailleurs par là notre entretien, Galia Ackermann, c'est que vous avez travaillé à la faveur de ces rapports du KGB. Ce sont bien les rapports du KGB ukrainien. Vous le dites très clairement parce que la partie russe est totalement verrouillée et totalement classifiée. Comment avez-vous travaillé sur ces rapports-là dont vous donnez des extraits qui sont parfois, et voilà, vous avez les bras qui tombent par terre.
Les bras tombent par terre, c'est sûr, et à ce point que mon éditrice, Amélie Petit, parfois me demandait en me relisant « Est-ce que vous avez bien traduit ?» C'est vraiment comme ça, parce qu'elle ne croyait pas, en quelque sorte, elle restait un peu incrédule. À ce point, c'était, on peut dire, à la fois tragique et comique. Maintenant, les sources. Les sources sont ouvertes. Il y a deux volumes de documents internes du KGB, je fais l'accent sur interne, qui ont été publiés par les services de sécurité ukrainiens, qui sont en quelque sorte le successeur du KGB et qui ont reçu en héritage des archives énormes. Seulement, ce qui est très intéressant dans ces archives, que, comme je l'ai dit, il s'agit de documents internes. Jusque-là, on a toujours publié des dossiers consacrés à telle ou telle personne. Disons, un grand écrivain fusillé, on trouve ses interrogatoires, notes de son procès, etc., etc. Mais on ne nomme jamais les noms des agents. On ne nomme jamais les noms des officiers du KGB. Là, on a des documents internes, c'est-à-dire des documents qui étaient par définition top secret et qui sont pour la plupart des rapports, des notes de service, des instructions et qui dévoilent déjà toute l'architecture interne du KGB, ce qui est déjà très intéressant. Au moins au niveau local, on sait maintenant très bien avec les chiffres précis à l'appui, comment se structure, disons, une cellule ou une antenne du KGB dans une ville de petite taille, mais il y a aussi la surveillance de la centrale, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de choses édifiantes. Ces sources se trouvent sur Internet. Il y a un accès libre à ces sources. Et il faut dire, il faut quand même toujours mentionner, je pense, que les services de sécurité ukrainiens ont fait la politique d'ouverture, la vraie politique d'ouverture. Et il publie maintenant systématiquement différents dossiers. Ils sont en train aussi de numériser toutes ces archives. Et il y a un accès pour les chercheurs, pour les personnes qui ont une raison valable d'y aller. Et on vous permet non seulement de feuilleter, on vous apporte ce que vous avez demandé, mais faire des photocopies et même ils les font pour vous ou ils numérisent pour vous. C'est-à-dire, c'est totalement...
C'est la transparence.
C'est totalement la transparence par rapport au KGB russe, maintenant, ça s'appelle le FSB, et bien sûr, l'ex-KGB biélorusse. Donc, ça nous permet de connaître une partie très importante de l'histoire, justement parce que la centrale, elle était quand même sur le territoire ukrainien, mais elle ne permet pas de mesurer toutes les conséquences de cette catastrophe parce que nous avons seulement l'Ukraine. Il n'y a rien dans ce livre qui parle de Biélorussie et de Russie qui ont également été fortement irradiées.
Alors, Galia Kerman, expliquez-nous, parce que vous êtes une spécialiste de la Russie, ça apparaît aussi dans votre livre, pourquoi le KGB, qui est la police secrète de l'URSS à l'époque, se retrouve là dans votre livre, on le découvre, maître d'œuvre, presque contre-maître, en tout cas, superviseur d'un chantier, d'une centrale nucléaire, quand on l'imagine plutôt traquer les opposants, chercher les dissidents.
Vous savez, le KGB a un organigramme assez complexe. Il y a plusieurs directions et différentes directions s'occupent de différents problèmes. Nous, les documents qu'on a émanent essentiellement de ce qu'on appelle la sixième direction du KGB, qui était une donc direction au niveau national soviétique et avec bien sûr des directions dans chaque république. Et cette direction, donc, qui s'appelle direction numéro 6, s'occupe spécifiquement du contre-espionnage économique. Maintenant, il faut que je vous explique quelque chose. C'est que le maître mot dans cette histoire, c'est le mot sabotage. L'Union soviétique, même la Russie soviétique, disons, depuis le coup d'État bolchevique, a été obsédée par l'idée du sabotage. Ils se croyaient entourés d'ennemis, ce qui n'était pas complètement faux, d'ennemis extérieurs et intérieurs qui cherchaient à saboter les réalisations du nouveau pouvoir et aussi le pouvoir lui-même. Et le prototype du futur KGB, qui s'appelait la Tcheka, je pense que nos auditeurs connaissent cette abréviation. Tcheka, ça veut dire commission extraordinaire. Mais le nom complet, c'était commission extraordinaire de la lutte contre la contre-révolution et le sabotage. Et donc, on cherchait les saboteurs partout. Et bien sûr, pendant toute la période stalinienne, être désigné comme saboteur, alors qu'il pouvait s'agir aussi d'une simple erreur de calcul, de qualification suffisante, etc., etc., ça pouvait valoir jusqu'à, comme on disait, la mesure suprême, c'est-à-dire d'être simplement fusillé. À l'époque où se situe notre récit, ce n'est plus comme ça. Le KGB a toujours une direction spéciale qui s'occupe du contre-espionnage économique et qui cherche toujours des saboteurs, mais il n'a plus le pouvoir de les arrêter sur un simple soupçon, de les extorquer des aveux et de les envoyer au goulag ou à la mort. Il peut seulement constater. Donc, ils surveillent et ils écrivent des rapports. Les rapports, aussi bien à leur hiérarchie, d'abord au niveau de Kiev, c'est-à-dire l'hiérarchie intérieure ukrainienne, et ensuite les chefs de Kiev écrivent leurs rapports à Moscou s'ils le considèrent nécessaire. On surveille toujours sous le même angle. Il cherche le sabotage potentiel. Il cherche à savoir pourquoi on n'a pas livré les matériaux nécessaires à temps. Pourquoi est-ce qu'on a livré des tuyaux défectueux qui ne peuvent pas être montés, etc. Pourquoi il y a eu un arrêt de réacteur, pourquoi la sécurité interne n'est pas assez forte et permet aux ouvriers de voler toutes sortes de matériel, y compris contaminés radioactifs. Vous voyez, mais ils ne peuvent pas agir. Ils peuvent seulement constater. Parfois, ils écrivent parallèlement au parti, aux organes du parti, parce que il faut aussi rappeler, le KGB n'est pas une institution indépendante. Le KGB que jadis le fondateur de la Tchéka Dzerzhinsky appelait le glaive du parti. Plus tard, Nikita Khrushchev l'appelait un peu plus, plus horriblement, les yeux et les oreilles du parti. Et donc, on informe le parti, mais c'est au parti d'intervenir.
C'est au parti d'intervenir.
Et le parti, très souvent, n'intervient pas. C'est ça qu'on voit aussi dans ces rapports, c'est que les tares, les problèmes s'accumulent, on écrit des rapports, et le parti ou même le parquet ne réagit pas ou réagit très tardivement, etc.
Justement, on va rentrer dans le détail de ce livre, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ces rapports sont édifiants. Et finalement, toute cette correspondance vient nourrir votre livre et éclaire ce qui apparaît comme un fiasco gigantesque. Je voudrais qu'on revienne sur un point de détail. On va aborder plusieurs sujets dans cette construction, mais commençons par celui qui est essentiel et qui va aboutir à l'explosion, c'est bien entendu le choix des réacteurs. Et vous le dites, je ne vais pas rentrer dans la technique, tout ce que vous racontez, mais simplement, il y a deux options sur la table. Et l'option qui est retenue, il y a le choix entre deux réacteurs, et c'est le choix du réacteur qui est retenu, et au fond, le pire, le plus dangereux. Expliquez-nous un peu pourquoi ça va dans cette direction-là, sachant que dans un rapport, il est écrit très clairement, et vous le citez dans votre livre, le ministère de l'énergie atomique reconnaît qu'il n'a pas d'expérience dans le nucléaire.
Si vous voulez, il y avait à l'époque deux types de réacteurs. Un réacteur qui avait un confinement et où c'est l'eau qui servait de système de refroidissement. C'est le type de réacteur qui est utilisé à ce jour en Occident. Et il y avait un réacteur qui était issu, en fait, de l'usage militaire qui ont servi à l'origine à l'enrichissement du plutonium et qui n'ont pas de cette enceinte de confinement en quelque sorte. Et pourquoi on choisit ? D'une part, là d'ailleurs, il y a aussi une notion intéressante à introduire. Si vous voulez, le KGB, donc au niveau local dont nous parlons, c'est celui de la ville de Pripyat, la ville qui logeait le personnel de la centrale et de tous les services nécessaires autour. Et la centrale elle-même, d'abord en construction, ensuite en exploitation. Et donc, pour ça, il y a une cellule qui compte une dizaine d'officiers du KGB qui sont, disons, statutaires. Ensuite, c'est à eux de recruter un réseau d'agents qui sont là surtout pour surveiller divers groupes de population, divers chantiers, etc., etc., qui ne sont pas des statutaires, mais qui ont signé un contrat écrit avec le KGB, donc ils gardent tout sous silence, etc., etc. Ils ont des obligations. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les personnes de confiance. Ces personnes de confiance, dans ce cas concret, ce sont des spécialistes, des physiciens, des ingénieurs, etc. Et c'est grâce à eux que le KGB cherche des réponses. Parce que vous imaginez que les officiers du KGB ne sont pas formés à la physique nucléaire. Ils doivent, dans leur jugement, se reposer sur ce que les spécialistes leur racontent. Et donc là, ils interrogent, et il y a des protocoles de ça, des rapports, ils interrogent des spécialistes dix personnes de confiance, qui leur expliquent que oui, ce réacteur est un peu dangereux parce que sous certaines conditions, d'ailleurs pas très bien étudiées, il peut devenir instable, mais il est moins cher que l'autre. Et d'autre part, de toute façon, l'industrie soviétique n'a pas les capacités techniques pour construire l'autre type avec confinement. Vous voyez, donc, comme il y a l'idée de... c'était le slogan de Khrushchev, mais qui a perduré, rattraper et dépasser les États-Unis. Les États-Unis développent le nucléaire. Nous aussi, on doit développer le nucléaire. En fait, la construction des centrales n'était même pas strictement nécessaire parce que l'Union soviétique était riche d'énormes fleuves, donc l'énergie hydroélectrique. Il était riche des hydrocarbures, et la Russie l'est toujours. À l'époque, il n'y avait pas de considération écologique. Nous parlons d'une époque maintenant révolue de combien ? De plus de 50 ans. Ils auraient pu s'en passer, mais c'était une question de prestige. Et si on ne peut pas construire un truc avec confinement, on construit un truc sans confinement. En plus, il y avait des promoteurs de ce type de réacteur dont la construction était très simple. Vous avez dû voir sur les photos, c'est une grande salle où il y a comme des trous. Ça, c'est les tubes du réacteur. Pour ralentir la réaction à l'intérieur, au cœur du réacteur, on enfonce davantage ces tubes de graphite qui ralentissent la réaction. Si on veut accélérer, on les remonte. Et donc, tout autour, il y a les pupitres pour diriger
tout ça. La salle de contrôle.
Salle de contrôle, voilà. Les inventeurs de ce type de réacteur, c'était deux académiciens qui étaient maintes fois décorés, qui étaient les grandes figures absolument mythifiées en quelque sorte, l'académicien Doléjal et l'académicien Alexandrov. Et ils juraient par les grands dieux que ce type de réacteur était absolument sûr. L'académicien Alexandrov, paraît-il, disait qu'on aurait pu installer un réacteur comme ça sur la place Rouge. Et c'est dans cette doxa que le personnel a été élevé. Il ne pouvait en aucun cas, jamais, jamais, le grand jamais, se produire quelque chose d'aussi tragique et même rien se produire du tout.
Et pourtant, quand on vous lit Galia Ackerman, il y a ce choix des réacteurs que vous venez d'expliquer, qui est quand même le choix le plus dangereux qui est retenu. Ça commence à se construire. Et là, les retards s'accumulent au fil du chantier. Ils prennent un retard vraiment considérable. Des matériaux défectueux arrivent. Notamment, vous venez de le dire, il y a un rapport dans le livre sur des tuyaux défectueux qui arrivent, qui ne sont pas aux normes, qui ne correspondent pas du tout. Et pourtant, tout ça se met en place. Mais il y a aussi des vols. Et vous racontez, il y a un rapport qui raconte une scène absolument terrible, parce qu'ils disent que même le superordinateur M6000 est livré, qui doit faire fonctionner le réacteur numéro 1. Il est livré, mais on le retrouve complètement déplumé. Il n'y a plus rien dedans. Des retards, des mauvais matériaux, des conditions de vol, des conditions de travail déplorables avec des accidents de travail à n'en plus finir. C'est ça l'histoire de cette centrale que vous racontez à la lueur de ces rapports-là. Mais pour qu'on vole même les éléments du superordinateur, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans le processus.
Mais vous savez, c'était absolument pas unique pour cette centrale. C'était l'état général de l'industrie soviétique. Encore, ça c'était un chantier, si vous voulez, préférentiel pour lequel on faisait des efforts. Mais rien ne fonctionnait plus déjà dans les années 70. Le vol était endémique. Les ouvriers n'étaient pas motivés simplement pour bien travailler. La corruption était omniprésente. Moi, je me demande, vous avez cité après moi, cette histoire de tuyaux. Comment est-il possible qu'on continue à les livrer alors qu'il s'est déjà avéré que cela ne convient pas ou il faut peut-être bricoler pour les faire assembler, ces tuyaux, etc. Et moi, je dis que la réponse, l'unique réponse, c'est la corruption qui pénètre tout de haut en bas. Et donc, j'imagine que les directeurs de l'usine qui livrent des tuyaux défectueux donnent un pot de vin à quelqu'un pour qu'on ne l'arrête pas ou pour qu'on passe ça sous silence, etc. Voyez, quand on parle de la corruption des sociétés post-communistes, quand on parle de la corruption en Russie, en Ukraine, etc., il faut qu'on se rende compte que ces sociétés post-soviétiques sont issues quand même de dizaines d'années d'une corruption absolument épouvantable. Parce que c'est aussi, vous savez, je pense que je donne aussi ces exemples-là, des objets volés. Donc le KGB se plaint que la clôture du site n'est pas étanche, qu'on peut passer d'une partie du site à l'autre sans être contrôlé, etc., etc. Et il y a des matériaux qui disparaissent, du métal, du bois, toutes sortes de pièces détachées. L'ordinateur qui est livré, et vous savez, à l'époque, c'était des gigantesques. L'ordinateur, c'était une pièce entière. Il est déplumé. Les voitures commandées qui arrivent aussi sont illico presto déplumées, etc. Vous comprenez qu'on ne peut pas, s'il y a un vrai contrôle, sortir ces pièces du site. Si on les sort, c'est que là aussi, il y a des complicités. C'est que la police, elle est aussi impliquée dans ces vols et reçoit sa part. Et pourquoi on vole tout ça? Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse acheter dans les magasins. Vous voulez construire ou réparer votre maison de campagne, il n'y a pas de matériaux de construction à la vente.
C'est l'échec du communisme.
Bien sûr.
C'est l'échec du communisme que vous racontez derrière ce livre. En toile de fond, c'est vraiment l'échec d'un modèle.
Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que c'est tellement édifiant. Et donc, voilà, je reviens. Vous voulez retaper ou construire votre petite dacha. Il faut que vous trouviez du bois, des clous,
le minimum
métalliques, l'évier, etc., etc. Et tout ça sera volé quelque part. Et c'est comme ça que les gens survivent d'une part au salaire bas et d'autre part quand même alimentent un tout petit peu le marché noir pour les besoins de citoyens. Mais ça a des conséquences extrêmement néfastes pour l'industrie en question, pour n'importe quelle industrie d'ailleurs.
Et plus particulièrement pour une industrie d'une centrale nucléaire qui est en construction avec ses matériaux défectueux, les retards dont on parle. Et Galia Ackermann, vous faites une parenthèse dans ce livre parce que vous revenez quelques années en arrière, en 1957, sur l'accident radiochimique de Mayak. Et là, on rentre aussi dans la culture du secret, puisqu'il se passe en 57 un accident nucléaire, un accident radiochimique extrêmement grave, sur lesquels les dirigeants de l'URSS vont travailler secrètement, tirent des enseignements sur toute la dangerosité du nucléaire, et vous mettez en parallèle cet accident de 57 avec le fiasco en cours de la construction de Tchernobyl. Et sans qu'aucune leçon ne soit tirée d'ailleurs, racontez-nous ce que c'est l'épisode de 57 et pourquoi il est si important quand on le met rétrospectivement en avant.
L'accident de 57 s'est produit à ce qu'on appelle le combinat chimique de Mayak, qui en fait produisait le plutonium enrichi, le plutonium militaire, c'est-à-dire très hautement enrichi. Il y a eu une fuite qui a provoqué la contamination d'une rivière qui s'appelle toujours Techa, et de plusieurs villages qui se trouvaient à côté de cette rivière. Mais en 1957, d'une part, c'est l'Oural. C'est quand même loin des confins occidentaux de l'Union soviétique. D'autre part, je pense que les moyens de détection de radioactivité à l'époque sont beaucoup plus faibles. Et surtout, comme ça a été directement une fuite dans la rivière, il n'y a pas eu tellement de... Il n'y a pas eu de nuages de Tchernobyl, vous voyez. C'est-à-dire, la contamination a été locale. Elle était sur quelques centaines de kilomètres carrés, mais elle était locale. Les gens qui ensuite ont été évacués, mais des années et des années plus tard, c'est la quatrième génération qui naît maintenant avec toutes sortes de déviations, on peut dire, génétiques. Vous voyez, c'était un accident confiné dans un certain territoire. Ces 5 ou 6 villages, ça ne représente pas une masse de population. Mais les gens qui ont été là-bas, l'État n'a pratiquement rien fait pour eux. Et à ce jour, il y a encore des gens qui se baignent dans cette rivière, toujours contaminée, parce que le plutonium... la durée de vie, ce qu'on appelle la période, la demi-vie du plutonium, de l'isotope le plus répandu, c'est 24 000 ans. Donc, voilà. Seulement, là, on a pu passer ça entièrement sous silence parce qu'il n'y avait pas de presse libre et parce que ça n'a pas atteint les confins quelconques. Cette information n'a pas pénétré dans le monde libre. C'est des décennies plus tard qu'un physicien russe dissident a raconté quand même cette histoire. Mais sur place, ils ont créé quand même un institut entier pour étudier les conséquences de cet accident sur la flore, la faune, la santé humaine, etc. Et j'ai rencontré, il y a déjà une quinzaine d'années, d'abord en correspondance, et ensuite, cette femme est venue pour quelques jours en France, une femme qui a travaillé dans cet institut à Mayak, et qui ensuite, quand l'accident de Tchernobyl a eu lieu, elle a été missionnée pour travailler à Tchernobyl. Et c'est là qu'elle a découvert que tous les volumes qu'ils ont écrits, vous savez, entre 57 et 86, c'est pratiquement 30 ans, ils ont accumulé une grande expérience aussi, comment traiter les suites, à quoi s'attendre, etc., etc. Eh bien, rien de cela n'était connu à Tchernobyl, parce que même à l'intérieur de l'industrie nucléaire civile, je ne parle même pas du militaire, il y avait le secret. Les accidents se produisaient dans toutes les centrales, notamment il y a eu un accident assez important dans la centrale de Leningrad, quelques années avant Tchernobyl, mais il n'y a même pas eu d'échange entre les directeurs des centrales. Tout était cloisonné pour ne pas faire sortir le secret. Et bien sûr, ça a joué son rôle funeste dans la suite.
Alors justement, on parlait des accidents, Galia Ackermann, parce que dans votre livre, il y a un chapitre consacré à l'exploitation de cette centrale de Tchernobyl. On l'a vu, le chantier va prendre beaucoup de retard, les salles ne seront pas prêtes à temps. Et en fait, la raison, c'est peut-être le seul moment où la raison l'emporte, c'est quand ils décident finalement de retarder, d'accepter ce retard et de ne pas construire encore plus mal qu'ils n'étaient en train de le faire. Donc ça prend presque 2 ans de retard. Finalement, la centrale rentre en activité. Et vous l'écrivez, il y a une série d'accidents, mais entre 77 et 81, la centrale nucléaire de Tchernobyl, sur ses 4 années, a connu 29 arrêts d'urgence, dont 8 dus à la faute du personnel d'exploitation. Là, on commence déjà à sentir que ça commence à devenir dangereux, que cette centrale ne présente pas toutes les garanties, mais même y compris dans son exploitation. Galia Ackermann, les rapports du KGB le montrent aussi. Est-ce que là, on parlait de témoignages édifiants, on commence à franchir un cap de plus?
Oui, tout à fait. Vous savez, en Union soviétique, ça vient encore de l'époque de l'industrialisation. Très souvent, on utilisait le personnel peu qualifié. Et donc, ce qu'on attribuait au sabotage était tout simplement manque de qualification qui ne permettait pas de réagir de façon correcte à toutes sortes de situations, surtout si c'était des situations extraordinaires. Parce que la jeune République des Soviets, donc ils utilisaient d'une part encore les cadres anciens, mais les cadres anciens vieillissaient, une partie ont émigré, on n'avait pas trop confiance en eux. Et le pays a été très rapidement alphabétisé. Et ensuite, les gens à peine alphabétisés, issus des couches travailleurs, c'est-à-dire paysans et ouvriers, qui ont reçu déjà l'éducation très sommaire au niveau de l'école, ils avaient les privilèges pour entrer dans des institutions d'études supérieures, instituts et universités qui formaient des spécialistes. Et donc, on apprenait plus ou moins bien. Il y avait en plus un système répandu des études de soir. Les gens travaillaient une journée entière, disons, à l'usine et allaient pour 2-3 heures de cours après le travail, avec la concentration qui est nécessairement un peu plus basse que si vous y allez le matin après avoir bien dormi. Et ensuite, il y avait encore le système de formation à distance. C'est-à-dire que vous pouviez vous inscrire à des études, peu importe dans quelle université ou, disons, une université, école technique, faire des études par correspondance et venir une ou deux fois par an pour passer les examens. Les exigences nécessairement étaient beaucoup plus basses. Mais ensuite, tout ce monde avait son diplôme d'ingénieur. Et comme il y avait le manque de spécialistes, si vous étiez ingénieur, peu importe, vous avez pu faire des études de pisciculture et ensuite être embauché dans une usine qui est dans une aciérie, par exemple. Vous voyez ? Et ça a été valable pendant toute l'époque soviétique parce que le service du personnel regardait, ah oui, il est ingénieur, il est, disons, membre du parti. Il a une bonne caractéristique de son entreprise suivante, ou si c'est un jeune spécialiste de son école, son université, allez, on le prend, il apprendra sur le tas. Et c'est comme ça qu'en pendant le procès que je décris, on a trouvé les boucs émissaires dans la dans les personnes, enfin, il y avait 6 accusés, et c'était essentiellement donc la direction de la centrale et 3 autres des contremaîtres qui étaient sur place cette nuit-là.
C'est ce que vous
explique de l'accident.
C'est ce que vous racontez dans le livre. Oui.
Voilà. Et on comprend que le directeur de la centrale, il était un très bon électricien, il était spécialiste des turbines, mais il n'avait aucune notion de la physique nucléaire. L'ingénieur en chef disait, pour se justifier, qu'il a fait justement ses cours de soir, et en plus, lui non plus, il n'a jamais étudié la physique nucléaire. Et donc, dans la situation extraordinaire, quand il y avait juste quelques secondes pour prendre la bonne décision, il y avait peut-être l'intervalle de 15 ou 20 secondes où il était peut-être encore possible d'arrêter l'accident. Il ne savait pas quoi faire. D'ailleurs, la série HBO le montre bien. Il commence à chercher les instructions. Il trouve ces instructions secrètes qui étaient fermées à clé. D'ailleurs, il fallait encore trouver la clé. Il regarde. Tout est biffé. On ne sait pas ce qui est valable, ce qui n'est pas valable. C'est ça l'état de la chose. Le secret et la basse qualification ça a joué aussi un rôle énorme dans cet accident.
Alors, il y a un autre dysfonctionnement, parce qu'on le voit, ils sont nombreux à la fois dans le recrutement, les compétences, la construction. C'est une accumulation, on le disait, faramineuse, mais il y a un point qui est presque anecdotique, qui pourrait être là encore risible. Vous allez nous parler du bassin de refroidissement, parce que quand on vous lit, Galia Ackermann, là, on ne sait plus quoi penser, parce qu'on découvre que dans ce bassin de refroidissement de la centrale nucléaire de Tchernobyl, on ne trouve rien de mieux à faire que d'installer un étang de poissons, de faire une production de poissons. Racontez-nous, poisson qui est vendu à la population. Là, on se dit que rien n'aura été épargné à la population de Tchernobyl.
Oui, en effet, j'ai été très surprise moi-même de découvrir ces documents. Mais ça vient de... d'une des obsessions du régime soviétique, qui était le productivisme. Vous savez, d'ailleurs, le test, finalement, qui a causé cet accident, parce qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose d'imprévu, le personnel ne savait pas comment réagir, c'est aussi un test productiviste. C'est-à-dire, il y avait une sorte de compétition depuis les années 30, entre les entreprises qui pourra inventer plus de qui aura plus d'idées, de propositions, comment rationaliser la production, la rendre plus productive, moins chère, plus rapide, etc. Et donc il y avait des primes pour ça. Dans le cas dans le cas de ce test, c'était l'idée qu'on pouvait, en arrêtant le réacteur, utiliser l'énergie résiduelle des pales de turbine. Et dans le cas de ce fameux étang, l'idée était que là, la température plus ou moins constante était de 24 degrés. Bien sûr, c'est très élevé, surtout en hiver. Et que ça pouvait permettre de produire beaucoup de poissons. Et donc, on a commencé à élever le poisson dans cet étang, qui est une grande étendue. Hein.
15 km carrés, je crois, de mémoire.
Oui, voilà. Et dans cet étang, donc, on a fait élever les poissons, ensuite on le pêchait. Il y avait une poissonnerie industrielle locale qui préparait le poisson et ensuite on le vendait à la population. Et bien sûr c'était intéressant. D'une part, l'idée était qu'on exploite une ressource supplémentaire qui peut permettre d'avoir beaucoup de poissons. D'autre part, on satisfait le besoin de la population qui, bien que Pripyat fût assez bien achalandé, mais le poisson frais, c'était quand même en hiver quelque chose de précieux. Même à Moscou, on ne vendait pas le poisson frais, c'était toujours congelé. Donc, c'était en quelque sorte du luxe. Et quand on a commencé à s'inquiéter que le niveau de radiation dans cet étang était inadmissible, parce que normalement, il ne passait pas beaucoup d'éléments radionucléides, mais il y avait aussi des sorties d'eau très contaminées. Donc le poisson était bien sûr contaminé et... À un moment donné, il y a eu des plaintes, il y avait une sorte d'instance qui s'occupait de la sécurité nucléaire. Donc, ils sont venus pour constater, pour voir ce qui se passait. L'institut qui s'occupait aussi, à qui on a soumis donc, cette idée après des tests, ne l'a pas approuvée. Mais le directeur de la poissonnerie, pour qui c'était bien sûr quelque chose de lucratif, la même corruption dont on a déjà parlé, il a tout simplement clôturé une partie du lac et a fait la clôture aussi sur la rive. pour qu'on ne puisse plus prendre de faire des tests. Vous voyez, ça, c'est la solution soviétique. Et donc, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas de document ultérieur, pendant combien d'années ce système de livraison du poisson frais contaminé à la population a duré.
C'est incroyable. Galia Ackermann, il nous reste encore presque un quart d'heure pour cet entretien. Je voudrais qu'on revienne sur deux éléments. Le procès, pour finir, mais le moment de l'explosion. Quel est votre regard sur l'explosion? Parce qu'on l'a dit, cette construction, c'est une accumulation d'erreurs. Et vous le dites dans le livre, c'est même étonnant qu'elle n'ait pas explosé plus tôt. Pourtant, ça arrive. Alors, avec le recul, avec tout ce qu'on sait, avec tout ce que vous avez épluché dans les archives du KGB, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il aurait fallu quelques secondes, peut-être qu'avec un peu plus de compétences, en 10-15 secondes, on aurait peut-être pu éviter le pire. Pourtant, ça arrive. Quel est votre regard sur dessus? Parce que maintenant, on est sur les 40 ans de ce 26 avril 1986.
Je pense qu'étant donné la conjonction de tous ces facteurs, un test qui n'a pas été bien conçu, la construction défaillante du réacteur. Ces réacteurs, maintenant, sont encore utilisés dans 2-3 endroits en Russie. Ils ont été modernisés après, mais en Occident, on n'a jamais utilisé ce type de réacteur. Donc, la compétence insuffisante du personnel, l'absence d'instructions claires. Je pense que l'accident lui-même était inévitable dans ces conditions. Donc là, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. En revanche, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très important à dire, à savoir que le KGB, d'emblée, dès les premières minutes après l'accident, d'une part, cherche les coupables et cherche les boucs émissaires et cherche le sabotage, ne le trouve pas d'ailleurs, mais surtout, il est employé à instaurer une chape de plomb, de silence, pour que personne ne parle de cet accident. Et là, vous savez, je pense que le KGB, comme j'ai déjà dit, c'était les yeux et les oreilles du parti. Mais ce n'était pas une institution indépendante. Elle avait droit à ses méthodes, etc., etc. Mais elle obéissait quand même au Parti communiste. Et si, dès le début, ils ont reçu l'ordre, le KGB, de garder le silence total sur cet accident, c'est qu'on leur a ordonné ça. Ce n'était pas leur initiative. Ça coïncide avec le fait que la première annonce de l'accident, en quelques lignes extrêmement lignifiantes, l'agence TASS, c'était 3 jours après l'accident, et Gorbatchev a fait un discours qui a été aussi quand même très lignifiant le 14 mai, c'est-à-dire presque 3 semaines après l'accident. Et les documents internes du KGB montrent qu'ils veillaient essentiellement à ce que personne n'apprenne rien. Il y a eu un ordre lancé à tout le réseau du KGB qu'il faut rapporter 2 fois par jour pour traquer les bavards et les obliger de fermer la bouche. Qu'est-ce que ça signifie dans la pratique? Ça signifie, moi je pense que là, c'est vraiment un crime d'État. Parce que on organise à Kiev, en pleine période de radioactivité, quand les vents soufflent en direction de Kiev, apporte l'élément radioactif, le iode radioactif, qui est très nocif, comme vous savez, pour la thyroïde, au lieu d'ordonner à la population en disant, voilà, il s'est produit un accident, la situation radiologique est défavorable, restez chez vous, confinés, parce que c'est un isotope à vie courte. Déjà, 8 jours plus tard, c'était beaucoup moins dangereux de sortir dehors que les premiers jours après l'accident. Mais Au nom du prestige, au nom, pour ne pas provoquer de panique, mais je pense surtout de prestige, le pouvoir soviétique mentait à sa propre population et au monde en donnant de faux niveaux de radioactivité et en exposant sa propre population. Et ça, je pense que c'est quelque chose, on aurait pu quand même éviter beaucoup de morts si au moins on avait prévenu la population du danger radioactif tout de suite. Et au contraire, ce qu'a fait le KGB, c'est que, encore une fois, il organisait même des mises en scène pour les étrangers pour continuer à embobiner tout le monde. Tout va bien dans le pays des soviets.
Justement, Galia Kerman, vous racontez, et vous le dites dans ce livre, que Gorbatchev maintient les cérémonies du 1er mai. Et c'est ça, ça reboucle avec ce que vous disiez, c'est-à-dire que on fait comme si de rien n'était. Or, le nuage, les vents partent sur la Biélorussie quelques jours après, dans la foulée de la catastrophe, puis se retournent et reviennent vers Kiev au moment où le pouvoir soviétique décide de maintenir ça pour l'affichage du monde entier, pour montrer que la Russie tient la route, sauf que l'URSS est toujours debout, alors qu'il y a ce risque majeur et que les vents se retournent. Mais cette manifestation du 1er mai, est-ce que cela, c'est aussi la preuve de cette chape de plomb, des risques qu'a pris le KGB à ce moment-là, et le Parti communiste, puisque c'est lui qui décide?
On a des mémoires qui racontent que le premier secrétaire du Parti communiste de l'Ukraine a voulu annuler ce défilé du 1er mai qui était traditionnel. Pratiquement, il y a eu deux grandes fêtes à l'époque soviétique, 1er mai et 7 novembre, anniversaire de la révolution d'octobre. Et traditionnellement, ce jour-là, il y avait un grand défilé des travailleurs. Et ils ont été, bien sûr, plus ou moins réquisitionnés parce que c'était des colonnes de chaque entreprise, de chaque école, chaque université, etc. Ce premier secrétaire voulait annuler cette manifestation et Gorbatchev l'a engueulé en disant qu'il allait perdre son poste s'il ne le faisait pas. Et donc, lui, il est sorti au défilé avec son petit enfant sur les épaules. Il y a eu 120 000 personnes qui, pendant plusieurs heures, ont défilé sous le beau soleil du début mai et dans la poussière radioactive. Et le KGB donne tous les jours les vrais chiffres de radioactivité pour Kiev et qui sont 20, 50, 100 fois inférieurs aux chiffres donnés officiellement. Et si vous voulez, il y a un épisode que je raconte et que je trouve aussi assez incroyable, c'est que nous avons des photos que dans ce défilé, il y avait des groupes d'enfants qui chantaient et dansaient des danses folkloriques, qui étaient habillés dans des costumes folkloriques ukrainiens. Le KGB rapporte que les enfants ont reçu ces costumes du palais des pionniers et qu'ils devaient les rendre le 4 mai après les fêtes. Mais le 4 mai, ils n'ont pas pu les rendre parce que les costumes étaient hautement contaminés. Et donc, je ne sais pas ce qu'on a fait, comment on les a décontaminés, ce qu'on les a jetés. Mais en tout cas, vous imaginez que si les costumes de ces enfants étaient contaminés, c'est que toute la population qui est sortie pour ce défilé l'a été également. Pour moi, c'est criminel. Et ensuite, le 6 mai, il y a aussi la course de vélo à laquelle participent plusieurs pays socialistes et certains pays capitalistes. Finalement, seule la France maintient la délégation pour participer à cette course internationale. Et l'idée était que chaque fois, ça devait passer par une capitale d'une république soviétique. Et cette année-là, ça devait être Kiev. Au lieu de dévier, ils auraient pu s'organiser. Au lieu de dévier, ne pas passer par Kiev, ne pas passer par l'Ukraine, on a maintenu tout ça. Et vous imaginez aussi ces sportifs qui, pendant des centaines de kilomètres, ont roulé sur leur vélo aussi avec
la poussière.
Les isotopes qui tombaient sur eux.
Galia Carmen, pour terminer cet entretien, je voudrais qu'on évoque la situation d'aujourd'hui parce que vous en parlez dans votre livre. C'est les 40 ans cette année de l'accident majeur de Tchernobyl. On est en pleine guerre d'agression russe, en pleine invasion russe en Ukraine. La centrale de Tchernobyl a de nouveau été frappée par un drone russe. On sait que le sarcophage est fragilisé. On sait qu'il va falloir de nouveau intervenir dessus. Vous avez vous-même visité Tchernobyl. Et pendant cette guerre d'agression russe, les Russes sont allés jusqu'à Tchernobyl. Ils ont creusé des tranchées, ils ont miné, ils ont remué la poussière radioactive. Ils ont réactivé finalement cette espèce de brasier qui ne s'éteint jamais. Et au fond, si on veut prendre cette image-là, qu'est-ce que ça vous a fait, Galia Karan, vous qui connaissez bien ce sujet, quand vous avez vu cette arrivée russe là-bas, et on sait aujourd'hui qu'ils ont remué cette terre et que tout ça est encore dangereux au fond.
Moi, je pense que maintenant, avec cette guerre et aussi avec la guerre israélo-américaine avec l'Iran, nous avons pour la première fois compris que nos centrales, qui se trouvent maintenant dans plusieurs pays du globe, peuvent être victimes non seulement d'un accident, mais simplement de conditions de guerre. Et dans ce sens, cette frappe de drones russes sur l'arc, le nouveau confinement,
le sarcophage,
qui a recouvert le sarcophage, est bien sûr symbolique parce que les Ukrainiens affirment que le sarcophage lui-même a été endommagé. Donc non seulement que ça a percé le métal qui entoure maintenant le sarcophage, mais le sarcophage lui-même est devenu instable. Donc, si on ne repart pas rapidement, ce qui va coûter des sommes très importantes, j'ai entendu jusqu'à 500 millions de dollars, nous risquons d'avoir de nouveau un foyer de radioactivité. Et je pense pareil, vous savez, les Russes aujourd'hui font le chantage avec l'occupation de la centrale de Zaporijia, qui est dans la zone des combats. On a la centrale nucléaire de Bushehr en Iran. Il y a eu des guerres locales auxquelles participe le Pakistan, qui a aussi ses centrales nucléaires. Nous entrons dans un monde encore en quelque sorte plus dangereux parce que la frappe sur une centrale nucléaire, ça va probablement pas provoquer la réaction nucléaire, mais en tout cas, ce sera une énorme bombe sale et potentiellement le nuage du type de Tchernobyl. C'est ça que nous apporte maintenant l'enseignement du 21e siècle.
Merci beaucoup, Galia Karman, pour ces éclairages et cet entretien. Alors, si vous voulez tout savoir sur le KGB à Tchernobyl, en tout cas, on vous conseille fortement ce livre parce qu'on l'a dit tout au long de cet entretien, c'est édifiant. Les témoignages du KGB sont limpides. Voilà, c'est tout ça, c'est à lire dans le KGB à Tchernobyl et c'est signé Galia Karman aux éditions du Premier Parallèle. Merci beaucoup et on se retrouve très vite pour un nouvel entretien sur la librairie Mola. Merci.
Merci beaucoup.